La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Bon.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas l'erreur. Vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Décibel que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi de 18h30 à 19h sur votre radio associative libre et sans pub, Radio PFM. C'est Honorine aujourd'hui pour vous proposer cette émission et je suis accompagnée par Jean-François. Salut Jean-François.
Bonsoir Honorine, bonsoir à tous.
Et je ne suis pas seule, et nous ne sommes pas seuls dans les studios, puisque nous avons le plaisir de retrouver David Krampf. Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, tu nous parleras finalement, on évoquera avec toi pendant cette demi-heure ce retour fou de ton premier groupe en tant que producteur, The Necromorph, qui a déjà un petit peu plus de 25 ans. Alors David, on avait pu t'inviter l'année dernière puisque en fait tu avais pu donner un concert dans le cadre de Fête de la Chanson où tu mêlais un projet donc électro qui est vraiment ta base musicale avec des chansons françaises. Mais avant ça, on avait déjà parlé que ta carrière, on va dire, de producteur de musique ne datait pas d'hier, elle datait même des années 90 où tu avais pu produire pas mal de musique et tes morceaux avaient été diffusés dans pas mal de boîtes, que ça soit en France et puis même un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, finalement, il y a une recrudescence de ta musique. Est-ce que tu peux revenir sur cette anecdote ?
Oui. Déjà, merci de m'avoir invité pour parler de cette histoire qui est un peu surprenante parce que, en fait, il y a un regain d'intérêt pour la musique que j'ai produite il y a de ça maintenant quelques années. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais cette musique-là dont on va parler, je l'ai produite quand j'avais 20 ans. Dans les années, milieu des années 90, 94, 95, 96. Et donc, c'était une période où j'étais vraiment fan de techno, où ça venait de commencer. Après un mouvement musical qui, moi, m'avait vraiment beaucoup marqué quand j'étais ado. C'était la musique qui venait de Belgique. Donc, ce qu'on appelait la New Beat, l'acid music. La New Beat, il y a des choses qui sont restées quand même vachement connues, comme This is the Sound of Sea de Confetti, avec cette espèce de grand drôle là, Stromae est une sorte d'évocation aujourd'hui, parce que Stromae, qui est belge, en fait, je suis sûr qu'il a dû penser au début de sa carrière aussi à ce personnage de Confetti. Il y a une filiation, en fait, encore aujourd'hui, de ce mouvement qui a peut-être été un peu oublié, mais il y a des traces culturelles de tout ça. Et moi, j'étais nourri de cette musique qui venait de Belgique et qui elle-même venait des États-Unis, parce qu'en fait, les débuts de la techno, ça vient, en tout cas de l'électro, de l'acide, tout ça, ça venait des États-Unis et moi, étant ado, j'adorais ça. C'était l'époque où il y avait des boîtes un peu mythiques comme la pyramide, sur laquelle Christophe de Chavannes avait fait une émission de Ciel Montmardi qui est restée dans les mémoires aujourd'hui. Alors peut-être que les plus jeunes des auditeurs connaissent pas, mais ils pourront taper sur YouTube, essayer de trouver des infos là-dessus, ils vont retrouver. De Chavannes avait fait une émission très critique vis-à-vis de la CID et de la New Big pour laisser entendre que tous les jeunes qui écoutaient ça, c'était des drogués. Et du coup, il y avait une mesure de rétorsion. Il y a un groupe qui s'appelait les Baseline Boys qui avait fait une chanson voilà, pour se moquer de Christophe de Chavannes et qui lui avait fait voilà, dire un peu n'importe quoi en faisant des montages sonores. Et donc, en fait, c'est toute cette époque qui avait bercé mon adolescence quand je faisais voilà, cette musique au milieu des années 90.
Donc, plus particulièrement de la house music.
Oui, house music, techno, voilà, trance. Ouais, c'était un peu ça que je faisais.
Alors en particulier, le titre qui t'a remis encore une fois en lumière récemment, c'est The Hunchback. Voilà. C'est ce titre-là précisément. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce morceau, le contexte de création aussi ?
Oui, bien sûr. En fait, bah comme là, voilà, quelques personnes disséminées un peu partout dans le monde, d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, comme j'ai pu en parler avec elles, ce qui est surprenant avec ce morceau, c'est que bah, c'est peut-être pour ça que voilà, il est considéré comme un bon morceau, c'est que chaque chose a l'air d'être à sa place. Le morceau, quand on l'écoute, il est évident. Alors après, il y a sans doute des gens, des auditeurs qui n'aiment pas trop la house, qui n'aiment pas trop la techno. Après, c'est une affaire de goût. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment ce type de musique, le morceau, il s'impose un petit peu de lui-même. Et c'est comme ça, le contexte de création, c'était ça. C'est que c'est un morceau qui est venu vraiment d'une traite et qui est parti du texte. C'est bizarre pour de la techno, enfin plutôt house, ce morceau-là est plutôt house. C'est bizarre que ça parte du texte, parce que c'est ça qui explique qu'en fait je reste à l'aise dans la chanson ou dans la pop, parce que le texte pour moi reste important. Et dans cette chanson, il y a un texte voilà, qui m'est apparu voilà, comme une espèce de révélation, une histoire de bossu qui peint en fait un gibet avec de la peinture noire et qui attend ses victimes pour les zigouiller une à une. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, je ne peux pas vous expliquer. C'est comme de l'écriture automatique chez les surréalistes. Voilà, tout d'un coup, j'ai pris un crayon et j'ai écrit « I'm scared of the hunchback, painting the gallows in black ». Et le texte est venu en anglais comme ça. Et puis, j'ai enregistré ma voix avec un micro tout pourri. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'un EQ, les filtres passent bas, donc il y a peut-être du pop dans la voix, mais peu importe. En fait, le truc, bah, il a marché, ça a fonctionné avec un niveau technique qui n'était pas, voilà, qui n'était pas au firmament, clairement. Mais ce qui est génial en musique, c'est que, mais c'est valable pour les instruments aussi, ou même pour les voix, un défaut peut devenir très musical. Bonnie Tyler, elle n'a jamais vendu autant de disques après son opération des cordes vocales. It's a heartache, sans la voix cassée, c'est rien, c'est nul, c'est même plus intéressant, sa voix elle est extraordinaire. Il y a des instruments de musique très connus en électro comme la TB-303 qui sonnent un peu faux, et donc ça s'explique parce que les composants étaient de mauvaise qualité à l'époque, mais c'est justement pour ça que tout le monde s'arrache les TB-303, parce que ça sonne. Et c'est pour ça que je ne suis pas tellement surpris en fait qu'en dépit des conditions techniques qui n'étaient pas géniales, parce que je n'avais pas progressé comme aujourd'hui dans la production de musique, où là je suis quand même plus aguerri, surtout après la production d'un album qui m'a retenu 2 ans. Mais c'est pas ça qui a été un obstacle en fait à l'intérêt pour la musique. Parce que la musique, s'il y a des défauts, c'est pas forcément gênant en fait.
Alors dans cet album que tu réédites qui s'intitule donc House of Necroform volume 1, on peut déjà entendre les prémices du fil recording. Donc on l'expliquait un petit peu en hors antenne. Donc le fil de recording, il y a beaucoup d'artistes électro qui font de la musique à partir de ça, dans le sens où ils enregistrent des sons qui viennent de la nature, même des paysages urbains, etc. Et en fait qui détriturent et qui en font de la musique. C'est ce qu'on peut entendre sur ce titre, donc Bird Don't Cry. Comment à l'époque tu avais pu créer donc, avec les techniques qui n'existaient pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un ordinateur, tout le monde peut faire de la musique assez facilement. Comment ça se passait à l'époque ?
En fait, à l'époque, ce qui était complètement central dans la production de musique, c'était ce qu'on appelait le sampler. Aujourd'hui, ça a enfin, c'est un non-sens, c'est un non-sujet, le sampling. Parce que le sampling, c'était quoi? C'était la numérisation du son. Aujourd'hui, tout est numérique. Donc, quand on dit sampling, on dit « so what ?» Qu'est-ce qui se passe? Franchement, il n'y a pas de sujet. Sauf qu'à l'époque, c'était tout le sujet. Parce qu'on avait... ce qui permettait de numériser les sons, c'était vraiment des machines hardware qui permettaient vraiment d'enregistrer du son et après de le jouer sur un clavier. C'était ça, un sampler. Et on pouvait modifier les sons, modifier l'enveloppe, appliquer des filtres, appliquer des effets. Donc, c'était une machine ultra créative qui coûtait très cher. Moi, je travaillais à l'époque avec un Akai S2800 que j'ai toujours. Il fonctionne toujours, d'ailleurs. Et c'était comme ça qu'on produisait de la musique. Donc, en fait... À l'époque, quand on produisait de la musique techno, électro, je ne sais pas comment dire, on était des chasseurs de samples. Mais vraiment, moi, je passais ma vie, quand j'écoutais de la musique, à me dire « Ah bah tiens, là, il y a 0,5 secondes, là, mais ça, je le veux, je vais le sampler. C'est que 0,5 secondes, mais du coup, ça me fera un son de caisse claire comme jamais, parce que c'est ce son-là de caisse claire que je veux. » Et donc, on était à la chasse aux samples. J'avalais tous les disques que mon père pouvait acheter, et puis y compris les miens, pour savoir si je pouvais pas récupérer un son de grosse caisse, un son de basse, un son de caisse claire, un gimmick de voix, etc. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'en suis venu à enregistrer aussi mes propres sons. Donc, comme on le disait en antenne, à cette époque-là, spontanément, je veux dire, j'ai suivi personne, ça m'est venu vraiment spontanément. J'enregistrais le rire de mon petit frère, et j'en ai fait un titre qui s'appelle Funny Thing, qui fait partie aussi des vinyles que j'ai sortis à l'époque, où j'ai accéléré son rire. Ça donne un truc un peu dingo, et c'est assez rigolo. Voilà, malheureusement, je ne peux pas le faire écouter aujourd'hui. Je mettais des graviers dans des Tupperware que je piquais à ma mère, et puis je les passais sous le micro, et après je baissais la tonalité du son, ou au contraire, je l'accélérais, ou j'enregistrais des bruits de flotte dans un verre avec une paille, ou des bruits de jouets aussi, des jouets qui faisaient des trucs comme ça. C'était de la musique brutiste, parce que moi, parmi mes influences, c'est vraiment les avant-gardes, et même ado, en fait, j'étais déjà marqué par ça, les avant-gardes du début du 20e, tout ce qui est dada, tout ce qui est surréalisme. Et donc j'avais un univers artistique qui me prédestinait à faire de la musique brutiste, parce qu'en fait, c'est ce qui m'intéresse dans l'électro, dans la techno, c'est le fait que c'est de la musique qui est faite avec des bruits. Et je trouve ça, en fait, très, très intéressant au plan artistique.
Je vous propose d'écouter donc l'extrait « Bird Don't Cry ».
Thank you.
Bird Don't Cry par The Necromorph, et issu donc de cet album rééditionné. Je pense que ça se dit rééditionné. Réédité qui s'intitule House of Necroform volume 1. On est toujours donc dans cette émission décibel avec Jean-François et David Granf pour David avec toi pour nous parler donc de cette réédition. Donc ce titre qu'on vient d'écouter date de 1995 et aujourd'hui donc il y a cette réédition de plusieurs titres. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi finalement les rééditer aujourd'hui?
Ouais,
il y a plein de rencontres, hein. On en parlait un tout petit peu juste avant. Il y a plein de gens aussi qui sont réintéressés et puis qui ont envie de nouveau cet objet.
Bah, c'est une histoire assez magique parce que quand je m'occupais de mon projet donc d'électropop David Kranf, je me disais bah tiens, ce serait sympa aussi de remettre un tout petit peu sur YouTube un, deux, trois titres de la période où je faisais de la techno. Donc à cette époque-là, j'avais ouvert, il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai rouvert une chaîne YouTube où j'ai mis le titre qui a l'air d'être le plus apprécié, qui s'appelle The Hunchback. Et donc je l'ai mis sur YouTube. Et puis j'ai pas fait attention en fait aux messages qu'il pouvait y avoir sur la page. Il y en a pas eu beaucoup, mais ils étaient assez surprenants parce que il y avait des messages. J'étais en contact avec un Autrichien, un Serbe, un Vietnamien, un résident en Corée, un Britannique, un Marseillais, un Italien, etc. Et en fait, tous ces gens qui sont un petit peu éparpillés aux quatre coins du monde, bah ils aiment ce morceau, ils aiment cette musique là parce que... Alors j'en ai eu un au téléphone à qui j'ai pu m'entretenir assez longuement, on a discuté pendant 1 heure. Il a un magasin justement de vinyle où il est à la pointe en fait des tendances actuelles dans l'électro, et il dit bon, cette période là c'est une période qui est considérée comme étant une période de pionniers. 1995, c'était vraiment les débuts, et à cette époque là on produisait la musique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, essentiellement autour du sampler et puis quelques synthés. Et puis, on la produisait aussi un peu à l'arrache. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas toute la batterie technique qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de plugin. Le mastering, des fois, on n'en faisait pas. Donc, c'était fait vraiment, c'est artisanal. Et il y avait beaucoup de spontanéité à l'époque. Et surtout, cette musique-là, elle a le son de l'analogique. Et ça, il y a des gens en fait qui se mettraient à genoux pour retrouver le son de l'analogique, parce qu'aujourd'hui, dans le commerce, on trouve des tas de plugins pour les ordinateurs, les Mac, etc., pour retrouver soi-disant le son de l'analogique, mais c'est pas du tout comparable. C'est-à-dire, il y a une chaleur qu'on retrouvera jamais, avec des défauts, des fois un peu de souffle, mais peu importe. Et donc c'est quelques personnes, voilà, qui m'ont envoyé tous ces signaux positifs. Je me suis dit, bah vraiment, il faut que je ressorte ça en petit tirage. Donc là j'en ai mis 5 chez Olivier Valerio, qui a son émission ici à PFM chez Big Star Records, donc on peut en acheter. J'en ai mis quelques-uns chez Olivier, et puis surtout en fait ce qui est incroyable, c'est que début janvier, donc comme je te le disais hors antenne, il y a un label de Berlin donc qui s'appelle KMA60 qui m'a retrouvé, et ils m'ont demandé en fait si j'étais d'accord pour represser Hunchback avec 3 autres titres en vinyle prochainement. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que KMA60, c'est un label de Berlin, voilà, qui est bien connu dans ce type de sous-culture électro, cette veine-là, de la musique électro, donc rétro années 90, ils sont très pointus sur la question.
Pour le rappeler à nos auditeurs, hein, cette musique que l'on écoute aujourd'hui date des années 95-2000, durant ta période d'activité, en particulier plus précisément dans la techno. Qu'est-ce qu'il y a d'intemporel d'après toi dans cette musique, au-delà des aspects techniques que tu as abordés? Mais c'est une musique qui finalement aujourd'hui, malgré qu'elle soit quand même datée, qui trouve un public, et on peut imaginer un public jeune danser sur cette musique.
Ouais, je pense que ce qui rend intemporel, c'est la danse. Moi, ce qui m'a poussé dans les bras de la techno, C'est parce que j'ai. Voilà, bon, je. Parmi mes influences musicales, j'ai jamais été très sensible à la musique des Blancs. J'ai toujours beaucoup écouté de musique noire, parce que je trouve que c'est une musique, en fait, qui est. Voilà, qui parle beaucoup plus au corps, qui est beaucoup plus chaleureuse. Donc, moi, j'ai jamais réussi trop à écouter les Beatles ou même les Stones. C'est en fait des mouvements musicaux que j'ai du mal à comprendre et à apprécier. Voilà, j'adore la chanson française. Donc là, c'est de la musique blanche, mais voilà, c'est parce que c'est peut-être mon pays, c'est ma langue natale. Mais sinon, voilà, j'ai toujours écouté énormément de musique noire américaine, essentiellement, hein, beaucoup de funk. Il se passe pas une semaine sans que j'écoute Stevie Wonder, Bill Withers, Donny Hathaway. Je suis vraiment nourri voilà, de musique noire. Et cette musique noire américaine, elle parle au corps. Et je trouve que la techno, c'est la musique noire des blancs. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait vraiment pour parler au corps et pour danser. Donc moi, c'est le moyen que j'ai trouvé en fait d'exprimer. L'envie de faire danser les gens et de s'éclater et puis de se lâcher, de libérer les mouvements, voilà, et puis de s'éclater, de penser à l'instant présent. C'est une musique voilà, qui est. C'est carpe diem, cette musique-là. C'est une musique voilà, où on jouit de l'instant présent et c'est pas plus compliqué que ça. Et je trouve voilà, c'est une belle manière de voir la vie. Et contrairement à ce que pensait De Chavannes à l'époque, ça implique pas nécessairement de se remettre la tête à l'envers. On peut apprécier cette musique-là dans un état à peu près normal. Voilà, tous ces clichés-là sont vraiment ridicules. Il y a une incompréhension sur cette musique.
Oui, parce que ce qui est drôle, c'est que tu nous as ramené un article donc d'époque où effectivement tu avais la vingtaine, et puis il est stipulé que tu produisais de la musique pour les boîtes, mais tu n'allais pas en boîte, quoi.
Ouais, c'est ça. La journaliste de La Voix du Nord n'en revenait pas quand j'avais 20 piges. Là, elle est venue chez mes parents. J'étais dans ma piole avec mon home studio. Voilà, ça a quelque chose de très très juvénile, quoi. Donc c'est pour ça que je suis attaché à ce souvenir-là, parce que c'est je vois ça avec beaucoup de bienveillance quand je me vois avec cette tête-là, les cheveux mi-longs aujourd'hui. J'ai la tête quasiment rasée parce que j'ai mon âge, hein, voilà, je vais dans 3 ans, j'aurai 50 piges. Mais à cette époque-là, j'étais très chevelu. voilà. Et la journaliste, elle n'en revenait pas parce que en fait, ce fils de bonne famille, fils d'avocat, il fait de la musique, il parle de drag queen, de travesti. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça paraissait très curieux. Et en même temps, c'est vrai, moi j'adorais la musique, mais en boîte, j'aimais pas le côté un peu. J'étais pas à l'aise avec le côté sulfureux, avec les gens qui proposaient des trucs à consommer, tout ça. Moi, c'était pas trop mon truc. J'étais pas à l'aise. Et puis le côté très, très sexualisé des boîtes de nuit. Moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé en fait. Alors, c'est ça le grand paradoxe, c'est que je fais vraiment de la musique, je pense. Alors, on aime, on n'aime pas, mais je pense que je fais de la musique puissante. Qui peut vraiment renverser la tête sur une piste de danse, mais voilà, j'ai pas de passion vraiment pour les mœurs des boîtes de nuit. Ça veut pas dire que j'aime pas les boîtes de nuit. J'adore la musique des boîtes de nuit. Moi, j'étais le seul débile à aller en boîte de nuit pour écouter de la musique. Il y en avait pas beaucoup comme ça, parce que la plupart des gens qui m'accompagnaient en boîte, ils avaient envie de faire des rencontres, ils avaient envie de boire un coup, etc. Et moi, je m'asseyais dans un fauteuil, j'étais ébahi en fait par les titres que passaient les DJ. Et notamment, je me souviens d'une anecdote où j'étais vraiment renversé. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Je suis allé au Cherry Moon avec des copains. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, que j'ai entendu de la techno aléatoire où les notes étaient tirées au sort. Et du coup, c'était complètement psychédélique. Et ça a été une claque. Je me suis dit, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on devrait composer des mélodies? On n'a qu'à laisser l'ordinateur choisir les notes à notre place. Et puis on verra bien le résultat. Et je trouvais la démarche artistique vraiment intéressante.
Alors, je propose d'écouter un extrait donc de The Handback, et puis on se retrouve juste après.
I'm scared of the hunchback, painting the gallows in black. And as I walk up the stairs, I feel the despair. I'm scared of the hunchback, was in black, and as I walk up the stairs, I feel the despair. I'm scared of the hunchback. When the light of day becomes dark, I can hear unceasingly his howl as he steals one victim's soul. I'm scared of the hunchback.
The Unback par The Necromorph, issu donc de cette compil House of Necromorph volume 1. Merci tout d'abord Jean-François et David de m'avoir accompagné durant cette demi-heure.
Merci, merci. Noéline, merci David pour ta présence.
Et
merci
puis, à vous. Où est-ce qu'on va pouvoir donc retrouver donc cet album qui est en format CD, même vinyle aussi, et puis si un volume 1, il y aura peut-être aussi d'autres volumes.
Oui, alors aujourd'hui, on peut écouter la compile House of Necromorph volume 1 sur Deezer, Spotify, iTunes, YouTube Music. Voilà, la plupart des... Bah, même toutes les plateformes de streaming. Hein, voilà, et ceux qui seraient intéressés par un CD, donc il y a... j'ai fait un petit tirage, donc a priori, voilà, c'est plutôt collector, j'en ferai pas beaucoup, et il y a quelques exemplaires qui sont en vente donc chez Olivier Valerio, Big Star Records à Arras. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés plus par le vinyle, ce que je peux comprendre pour ce style de musique, il faut guetter donc l'actualité du label de Berlin, KMA60, qui va represser le disque prochainement. Ça, c'est à surveiller. Voilà. L'affaire est conclue, mais le disque n'est pas encore fabriqué. Ça va venir.
Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.
Merci.
Bonne soirée.
Painting the gallows in black.